Alors, nous allons terminer là cette série sur Jean 16, 33. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, bien entendu, mais là, avant de nous quitter, j'aimerais vraiment parler de deux points qui me semblent très importants de souligner. Donc, rappelez-vous, en Jean 16, 33, Jésus dit à ses disciples: Soyez courageux, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est intéressant parce que de quelle manière il a vaincu le monde, Jésus? Il a vaincu le monde en mourant. Il n'a pas vaincu le monde avec une armée, comme ce sera le cas à Armageddon par exemple. Il n'a pas vaincu le monde par son intelligence ou par son savoir qui était réel, par sa sagesse, par son autorité dans les Écritures. Il n'a pas vaincu le monde grâce aux miracles qu'il a accomplis. Il a vaincu le monde en étant condamné par le monde et en mourant. Pourquoi? Parce que derrière cette injustice, il y avait la justice de Dieu qui s'accomplissait. Un innocent qui meurt pour des injustes. Un innocent qui meurt pour le monde. Et donc Jésus prononce quelque chose que les disciples ont du mal à comprendre et auront du mal à comprendre après d'ailleurs. Parce que rappelez-vous, sur la route d'Emmaüs, lorsqu'il va discuter avec deux disciples qui étaient pour le coup très découragés par la mort de Christ, parce que dans leur tête, c'était terminé. Le combat était perdu. Il y avait déjà eu de l'opposition, il y avait des difficultés, mais là maintenant c'est terminé. Maintenant que la mort est venue, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. Et que va faire Jésus? Il va les encourager. Et comment il va les encourager? Par la vie de résurrection. Mais avant de parler de ça, de la vie de résurrection, j'aimerais vraiment insister sur cette notion. C'est que notre victoire, c'est notre foi, notre confiance en Dieu. Jean dit ça plusieurs fois. Mais notre victoire, c'est notre mort. Tout comme la victoire de Christ, ça a été sa mort, et par sa mort, une victoire a été obtenue. Le diable a été jugé et condamné. Et donc, à partir de ce moment-là, ses jours sont comptés. Et de la même manière, le monde, aussi, ses jours sont comptés. Notre chair aussi n'aura plus beaucoup de jours à vivre. Le péché a aussi des jours qui sont comptés. Pourquoi? Parce qu'une victoire a été obtenue. Alors, rappelez-vous l'illustration que je vous donnais lors du précédent message de ce soldat japonais de ces soldats qui continuaient de combattre alors qu'en réalité la victoire des Américains était totale. Et bien, de la même manière, la victoire de Christ est totale, mais il y a encore des batailles perdues d'avance en réalité par le royaume des ténèbres. Et nous, aujourd'hui, nous ne devons pas rentrer de façon presque hypnotique dans la séduction, en ayant l'impression que finalement la vie chrétienne est vaine. Regarde, les gens ne croient pas, les gens sont matérialistes, les gens pensent à autre chose, les gens combattent les chrétiens, persécution, Dieu n'a pas répondu à telle ou telle prière. Alors en plus, non seulement on se plaint du monde, mais on se plaint de Dieu en même temps. Non, 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 non. Nous regardons à Christ et nous avons cette assurance que la victoire a été obtenue par la mort de notre Sauveur. Et de la même manière, la victoire peut être obtenue jour après jour, aujourd'hui, par notre mort à nous-mêmes. C'est paradoxal. Normalement, quand un soldat meurt, ça fait un tireur de moins, c'est une perte. Mais en réalité, ce qui est dans le royaume de Dieu, ce qui est une perte est un gain. C'est comme si vous voulez, alors c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, sur ce point-là, c'est le cas. C'est comme si dans le monde avance comme ça, et le monde spirituel, lui, en haut, avance comme ça. Ce qui fait que ce que le monde croit bien, bah, le monde spirituel n'est pas d'accord. Et ce que le monde spirituel, au royaume de Dieu, dit être bien, le monde n'en veut pas. Il n'ira pas, lui, dans ce sens-là. Et donc, les sens sont contraires. Donc, au niveau naturel, terrestre, du monde, la mort est une perte. Mais en réalité, dans le royaume spirituel, la mort est un gain. Et donc, on voit que les valeurs sont inversées. Celui qui veut trouver sa vie, bah, il doit la perdre. Et comme ça, il trouvera sa vie. Vous voyez, les critères sont inversés. Et donc la victoire, elle n'est pas sur cette terre dans ce sens-là. La victoire, elle est dans les cieux, dans ce sens-là. Et donc la perte est en réalité un gain. Je donne ma vie, je vais la retrouver. Je sers Dieu, je vais avoir plein d'amis au centuple, j'aurai des récompenses. C'est-à-dire que tout ce qui, dans ce monde, paraît être une perte, en réalité, c'est un gain au ciel. Il y en a qui s'amassent des trésors ici-bas, Mais Jésus leur dit, qu'en sera-t-il de ton âme quand tu auras à rendre compte? Peut-être que là-haut, il n'y aura rien. La personne peut être riche ici-bas et pauvre en haut. De la même manière, nous pouvons, nous aussi, être peut-être pauvres matériellement, mais riches spirituellement. Avoir beaucoup de tribulations, mais avoir la paix du Seigneur en même temps. Et donc, encore une fois, ça peut paraître paradoxal, mais en réalité, nous avons un choix à faire. À quel niveau je me situe? Mais, et c'est quand même, il y a un mais, c'est pour cela, heureusement, nous avons le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce que je viens de vous dire là, cette définition de ces vents contraires, je dirais, ce n'est pas une théorie, ça ne suffira pas pour la vivre, cette vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre cette paix. C'est le Saint-Esprit qui nous donne une paix qui surpasse toute connaissance. C'est le Saint-Esprit qui nous encourage, qui nous fortifie, qui fait déferler l'amour de Dieu dans notre cœur. Et donc cette victoire que nous pouvons vivre, c'est parce que quelqu'un est déjà victorieux, c'est-à-dire Jésus-Christ est au ciel. Vous voyez, c'est pas une philosophie, une façon de vivre et un mantra qu'on se répète, je suis victorieux, je suis victorieux. Il y a des chrétiens qui malheureusement citent des versets ou s'encouragent, mais en fait ils sont tout seuls à s'encourager, comme le feraient certains religieux avec un collier de prière, hein, et puis plus je le dis, plus c'est vrai. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une relation avec le ressuscité. C'est la vie de résurrection qui nous permet de vivre ou d'expérimenter le monde qui est lui passager et composé de gens qui ont la vie immortelle. Mais nous, nous avons reçu la vie éternelle et c'est, en d'autres termes, c'est un miracle permanent. S'il n'y a pas Dieu qui intervient, je dirais presque physiquement, mais en tout cas spirituellement dans notre être intérieur pour nous encourager, pour nous consoler aussi. N'oublions pas que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Donc un consolateur nous encourage. Vous voyez, nous avons besoin de cet encouragement et de la consolation. Donc ça, c'est le premier point, c'est que vaincre, c'est obtenir une victoire avec des armes qui ne sont pas communes pour ce monde, qui sont même étrangères à ce monde. C'est pour ça que Paul va dire, dans ma faiblesse, donc c'est dans ce sens-là, pour garder l'illustration, je suis fort. Voyez, au niveau spirituel. Et donc c'est toutes ces valeurs qui ont l'air contradictoires, voire contraires, que nous mettons en avant et qui nous permettent de bénir le Seigneur et de bénir les autres. Et puis je terminerai aussi par une autre pensée qui est là aussi un paradoxe. Dans, si vous lisez chapitre 14, 15, 16 et même 17, parce qu'au chapitre 17, par exemple, Jésus va dire « Je t'ai glorifié ». Auprès de tous. Et quand il dit « Je t'ai glorifié », en réalité, c'est vrai que Jésus a glorifié le Père en plein de moments, durant les miracles, les enseignements qu'il proposait, etc. Mais quand il dit « Je t'ai glorifié », en réalité, la gloire suprême, c'est la croix. C'est-à-dire que c'est à la croix que toute la plénitude a été manifestée. L'amour de Dieu a été manifesté, mais aussi la sainteté de Dieu a été manifestée. Et donc la justice de Dieu a été manifestée. La croix est vraiment ce nœud-là qui nous lie. C'est un pont, je dirais plutôt, qui nous lie à l'éternité. C'est cette promesse faite à Ève que de sa descendance viendrait un sauveur. Et donc la croix, c'est là où Jésus-Christ a vraiment glorifié le Père, alors que là aussi, c'est un autre paradoxe, lui-même a souffert une forme d'injustice, mais il a pris la condamnation sur ses épaules. Mais là, lorsqu'il parle, que ça soit en Jean 17, où il dit « Je t'ai glorifié », il parle au passé. Là, il vient de dire en Jean 16, 33, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Pourtant, il n'a pas encore vaincu le monde, il n'a pas été à la croix. Et pourtant, Jésus parle au passé. Vous voyez ce paradoxe? Et ça, c'est une illustration supplémentaire de ce que c'est que de vivre dans l'œuvre accomplie. L'œuvre accomplie, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est pas lié uniquement à la croix, ce n'est pas uniquement lié à notre existence à nous, c'est lié même au plan de Dieu dès le départ. C'est-à-dire que quand Dieu a créé Adam et Ève, donc les cieux et la terre dans un premier temps, Adam et Ève, et puis ensuite on sait qu'il va y avoir la chute, en réalité, dans la pensée de Dieu, l'agneau de Dieu existait avant la fondation du monde. C'est-à-dire que le salut était déjà accompli. Et c'est ça le repos de Dieu en réalité. C'est-à-dire que je vous avais dit tout à l'heure que Dieu est le même hier, un autre message, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous avais dit que Dieu connaît tout d'avance. Ce qui fait que pour Dieu, tout est fait déjà. Même si dans ce monde-là, que Dieu a vaincu par Jésus-Christ, c'est pas terminé. Nous sommes en train de découvrir la victoire de Dieu. Mais le repos, il est là. On a ce même, cette même illustration que Dieu a voulu donner à Israël. Vous savez, quand dans l'épître aux Hébreux, il est dit que le peuple n'est pas rentré dans le repos de Dieu. Le repos, dans le contexte de ce livre, c'est en réalité la conquête de Canaan. C'est-à-dire que Dieu avait promis la terre promise, donc par définition, il avait promis la terre promise au peuple d'Israël. Donc Dieu délivre Israël de l'Égypte. Et alors qu'ils devaient entrer en terre promise, ils n'ont pas cru, ils ne sont pas entrés dans le repos. Le mot repos peut paraître paradoxal parce que quand on connaît ce qui va se passer 40 ans après et la conquête de Canaan ne va pas se faire dans un repos total. Il va y avoir des batailles, il va y avoir des guerres, il va y avoir des morts, il va y avoir de la résistance, un combat spirituel et un combat aussi, je dirais physique aussi, un combat naturel. Et donc c'est drôle de parler de repos pour parler de conquête. D'une certaine manière, le repos était plus dans le désert. Ils avaient moins de choses à faire. Tout tombait du ciel. Dieu était là. Non, c'est rentrer dans les bénédictions et dans le repos, c'est parfois combattre, c'est parfois être envoyé, parfois être mandaté. Mais pourtant, ça parle d'un repos. Pourquoi? Eh ben, parce que, prenons l'exemple de Josué et Caleb qui n'ont pas cru, eux, au discours des 10 autres espions. Eux ont vu différemment la terre promise, mais ils ont surtout vu les promesses. C'est-à-dire qu'ils disent au peuple, mais Dieu nous l'a donné. Et c'est dans ce sens-là que Josué et Caleb, eux, vivaient dans le repos. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans quelque chose qui, pour eux, était déjà accompli. Même s'ils n'y étaient pas, même s'ils n'avaient pas traversé le Jourdain, même s'ils n'avaient pas encore obtenu les victoires contre les nations et les autochtones, ils étaient persuadés que c'était fait. Donc ils avaient un repos, ils étaient sûrs de la victoire. C'est pour ça qu'ils disent au peuple, mais c'est idiot, Dieu nous l'a donné, il va honorer ça, c'est à nous. Donc allons-y, peu importe les géants. Et de la même manière, nous avons des géants. Mais pourquoi nous pouvons vivre dans le repos? Parce que nous savons que Dieu va honorer ses promesses et que ça soit maintenant ou dans l'éternité ou entre, il va y avoir la provision divine, il va y avoir la réalisation des promesses. Nous allons expérimenter la fidélité de Dieu. Et donc, la vie chrétienne consiste d'une certaine manière à parler au passé de ce qui va se passer demain. C'est parler au passé ou tout le moins au présent de ce qui n'est pas encore arrivé. Tout comme Jésus dit, je t'ai glorifié, j'ai vaincu le monde, alors que ce n'est pas encore fait, mais Jésus, parce que c'est le seul à pouvoir dire ça en réalité. Moi, je peux pas vous dire, les 1 000 euros dont tu as besoin, tu peux les dépenser, fais comme si tu les avais, parce que je te les donnerai demain. Ma parole n'est pas sûre. Pas forcément parce que je mens, ce qui peut être le cas, mais aussi parce que entre-temps, il peut m'arriver quelque chose. Je peux même mourir et donc ne pas vous donner 1 000 euros demain. Donc vous ne pouvez pas vous utiliser cette promesse aujourd'hui, vous êtes obligé d'attendre. Alors qu'avec Dieu, c'est complètement différent puisque Dieu d'abord connaît tout d'avance, Dieu est puissant et Dieu ne meurt pas. Et Jésus-Christ est ressuscité pour l'éternité. Ce qui fait que Dieu peut dire à ses enfants, la terre promise, elle est à toi, même si tu le, si tu ne l'as pas encore, si tu n'as pas encore les pieds sur ce territoire. Mais c'est à toi. Et Abraham y a cru, alors qu'il est mort en ayant comme terrain, même pas quelque chose que Dieu lui a donné, ce qu'il a dû acheter, c'était la caverne pour enterrer sa femme, et avoir un caveau familial. Donc, Abraham, lui, n'a pas expérimenté la victoire en terre promise. Mais il y croyait, il savait que ses descendants l'auraient. Il n'avait aucun doute là-dessus. Et de la même manière, nous n'avons pas encore vu la résurrection de notre propre corps. Nous n'avons pas vu le ciel. Nous n'avons pas encore vu Jésus revenir. Mais nous l'avons quand même. Parce que ça vient de Dieu. C'est une promesse de Dieu qui, pour qui le passé, le présent et le futur, à la limite, n'a pas de sens pour lui. Ça a un sens pour nous. Et lui se met à notre disposition et à notre niveau pour agir dans le temps. Mais lui, il est en dehors du temps. Donc pour lui, c'est. Jésus a toujours été l'agneau immolé qui a obtenu la qui obtiendrait la victoire, mais qui avait déjà la victoire. Et donc la vie chrétienne consiste très souvent à confesser et vivre des choses qui ne sont pas encore. C'est pour ça d'ailleurs que Abraham, il a cru Dieu parce qu'il croyait dans les choses qui n'étaient pas encore. Et de la même manière, nous, nous croyons dans les choses qui ne sont pas encore, mais qui pour Dieu, et selon son point de vue, c'est une réalité. Donc, Jésus, parce qu'il est le seul à pouvoir honorer ce genre de promesse, leur dit « j'ai vaincu », alors qu'en fait, il va le faire dans quelques heures ou dans quelques jours. Il a glorifié le Père, même s'il va le faire que dans quelques heures ou dans quelques jours. C'était une certitude. Donc, entrer dans le repos, c'est pas entrer présentement dans quelque chose. C'est entrer présentement dans une promesse, parfois une promesse réalisée, donc là ça devient quelque chose, soit dans une promesse qui n'est pas encore réalisée, donc il n'y a pas quelque chose de palpable encore, mais c'est au présent. Et donc c'est celui qui a commencé une bonne œuvre en moi l'accomplira jusqu'à la fin. C'est sûr qu'il va l'accomplir jusqu'à la fin, parce que Dieu est fidèle et il ne peut pas se renier lui-même. Donc du coup, nous croyons que Jésus a vaincu le monde, tout comme lui, il croyait qu'il l'avait vaincu alors que ce n'était pas encore fait. Mais nous, a fortiori, nous savons qu'il a été à la croix. Et nous savons que la victoire est liée à la croix. Et nous savons que Dieu est capable, bien entendu, de prendre possession de ce qui lui appartient. Vous savez, il est dit que le monde est sous la puissance du malin, que le diable est le prince de la puissance de l'air. En réalité, c'est une autorité qui lui est permise que pour un temps. En réalité, il l'a perdue. Le monde appartient à Dieu. Adam avait, comment dire, délégué l'autorité qu'il avait reçue de Dieu, il l'a déléguée au serpent, et donc il a perdu cette autorité sur la création. Et Jésus-Christ, le nouvel Adam, a repris autorité sur le diable, et du coup, ça lui appartient. Il n'est pas injuste que Jésus prenne possession de la terre. S'il vient sur la terre et que le diable vient lui dire « Mais non, moi, tu avais donné l'autorité à Adam et Adam me l'a donné, donc ça t'appartient pas », il ne peut plus dire ça parce que Christ a racheté à un prix infini par son sang, le sang de Dieu en Jésus-Christ, il a racheté par son sang le monde, mais aussi la malédiction satanique, et il a racheté nos âmes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout lui appartient. Il peut revenir quand il veut. En réalité, tout comme les soldats américains ont repris possession de certaines îles qui leur appartenaient déjà, de fait, ou qu'ils ont rendues à d'autres pays, peu importe, en tous les cas, ça n'appartenait plus aux Japonais, c'était qu'une question de temps. Mais officiellement, le territoire n'appartenait plus aux Japonais, même s'il y avait des soldats japonais qui se battaient sur ces territoires ou sur ces îles perdues. Et bien, de la même manière, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce monde, parce que le monde a été, nous ne sommes pas de ce monde, pardon, parce que le monde a été vaincu par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous savez, quand il est dit en Romains que nous avons été rachetés, purifiés, mais il est dit aussi que nous avons été glorifiés. C'est le même principe. Est-ce que nous sommes glorifiés, c'est-à-dire que nous sommes dans la gloire aujourd'hui? Absolument pas. Mais pourtant, Paul dit, nous avons été glorifiés. Parce que lui, il voit le salut, et nous devons voir le salut comme un tout. C'est-à-dire, tout comme nous avons été régénérés, nous serons glorifiés, nous serons dans la gloire, nous serons ressuscités, mais d'un point de vue théologique et d'un point de vue, réalisation des promesses, tout est fait. C'est-à-dire que je suis aussi sûr de ma régénération et de ma nouvelle naissance que je suis sûr de ma résurrection. Mon assurance ne vient pas de mon expérience. La régénération, je l'ai expérimentée, et je pourrais dire, bah oui, ça j'y crois, mais la résurrection, je suis pas sûr parce que je l'ai pas expérimentée. Non, le chrétien vit par la foi en Dieu, par la foi dans ses promesses. Il a vaincu. Et donc, il a vaincu la mort. Mort, où est ton aiguillon? Il a vaincu la mort, et du coup, aujourd'hui, toutes les promesses de Dieu, que ça soit celles que j'ai déjà expérimentées, j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu répond à mes prières, je vis des moments avec lui, que ça, tout ça, c'est palpable, tangible, expérimenté, mais il y a des choses que je n'ai pas encore expérimentées, mais pourtant, elles ont déjà eu lieu. C'est un fait. Et c'est là où il y a une victoire extraordinaire. Mais cette victoire, je ne peux la saisir que par la foi dans ce qui m'est dit dans les Écritures et par la conviction que me donne le Saint-Esprit. Et donc, ce verbe conjugué au parfait, lorsqu'il dit « prenez courage, j'ai vaincu le monde », c'est un temps parfait en grec, c'est-à-dire quelque chose qui est accompli. Alors qu'en réalité, quand il leur parle, ce n'est pas encore accompli. En Jean 19, 30, là, lorsqu'il va dire « tout est accompli », on peut comprendre, oui, ça a été fait, mais il le dit de la même manière, là. « J'ai vaincu le monde », c'est quelque chose de sûr et certain. Et donc, en Jean 16, 1, on est toujours dans ce péricope hein, de chapitre 14, 15, 16, voire 17, où Jésus va dire au verset 1 du chapitre 1, 16, « Le jugement, c'est le prince de ce monde, il est jugé ». Vous voyez, là encore, il n'a pas encore été à la croix, mais c'est à la croix en réalité que le jugement va s'accomplir pour le diable. Mais il en parle au présent à ses disciples, il veut les encourager, alors qu'ils vont peut-être être troublés par l'arrestation, par le procès, même par la croix, mais il veut les rassurer. Malheureusement, ça ne va pas suffire, mais en tout cas, ça va leur apprendre, ils vont s'en souvenir après, que entre ce que nous ressentons et ce que Dieu dit, à un moment donné, il faut faire un choix. Est-ce que je suis ce que je ressens ou ce que je vois? C'est-à-dire, Jésus est arrêté, il est en procès, il est à la croix, il est rejeté, il est fouetté, etc. Donc du coup, je prends une distance sur les choses que j'ai entendues avant parce que expérimentalement, ça a l'air contradictoire, et je choisis la réalité que j'expérimente maintenant, ou est-ce que je vis dans la vérité en disant ce qui est en train de s'accomplir, de toute façon ça a été prévu, et Jésus-Christ ressuscitera, chose qu'il avait annoncée, mais ça n'aura pas suffi. Donc nous faisons attention, ces choses nous ont été écrites pour notre instruction. Faisons attention, j'ai souvent tendance à dire, il faut séparer la réalité de la vérité. Ce que je vis dans ce monde, c'est réel. Je peux être subjectif, je peux me faire des films, mais en tout cas, globalement, on va dire que c'est réel. Je souffre dans mon corps, c'est réel. Quelqu'un s'oppose à moi ou me bénit, c'est réel. Mais ça, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire que je vis la vérité. Mais la vérité, c'est ce que je vis par la foi. Par exemple, Joseph est en prison. Joseph continue d'être utilisé par Dieu. Il reçoit des rêves, il interprète, il sert les autres, même ses ennemis. En fait, il vit dans la vérité. La réalité semble dire qu'il n'est pas béni par Dieu, mais la vérité prouve le contraire. Il reçoit des choses d'en haut parce qu'il vit dans la vérité. Et il va au-delà du réel qu'il expérimente. De la même manière, Paul va se faire à tout et à tous. En dehors de la réalité, il va vivre dans la vérité. Je peux peut-être, je prends des gens qui ont peut-être des problèmes dans leur couple, dans leur mariage. C'est une réalité. Mais dans cette réalité, je peux vivre la vérité, être patient, manifester de l'amour, intercéder, pleurer avec Dieu, bénir ceux qui sont peut-être contre moi, même la personne la plus proche de moi. Donc il y a la réalité, mais il y a la vérité. Et c'est la vérité qui va me rendre serein. Il va dire encore en Jean 12, 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Vous voyez, il dit « maintenant, il va être jeté dehors ». Maintenant, c'est-à-dire ce qu'il est en train de faire, en réalité c'est ce qu'il va faire à la croix, mais il sera jeté dehors. Vous avez vu, vous, le diable jeté dehors? Pas pour l'instant. Même plus tard, les Écritures nous disent que Jean, l'apôtre Jean, va dire que le diable est encore le prince de ce monde. Mais en réalité, il va être jeté dehors, nous le savons. C'est une question de temps. C'est-à-dire que Jésus a choisi, parce qu'il est lent à la colère, et parce qu'il est, il veut qu'un maximum de gens soient sauvés, il prend son temps pour prendre possession de ce qui lui appartient. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas pris possession de ce qui lui appartient que ça ne lui appartient pas. De la même manière que vous avez acheté la marchandise dans un magasin, vous n'avez peut-être pas la voiture ou le véhicule pour transporter la marchandise, mais vous l'avez payé. Donc même si la marchandise est dans le magasin, elle vous appartient. C'est une question de temps pour qu'elle soit chez vous. Tout comme lorsque nous avons été scellés du Saint-Esprit, hein, vous connaissez sans doute cette illustration, dans un port, quand l'acheteur achetait la marchandise, il avait lui aussi pas tous les éléments ou les véhicules pour prendre la marchandise, il utilisait sa bague, et avec de la cire, il poinçonnait toute la marchandise. Ce qui fait que sur le quai ou dans les hangars, on savait que tel ballot de marchandises ou telle caisse appartenait à telle ou telle personne. Pourtant, c'était pas chez lui, le hangar était pas à lui, le quai du port n'était pas à lui. Mais la marchandise était à lui parce que on avait poinçonné, si vous voulez, ou scellé la marchandise. De la même manière, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc nous sommes dans ce monde, mais Dieu nous a pas encore pris avec lui. Il n'a pas encore pris possession de ce monde, mais c'est une question de temps. Et donc nous pouvons dire, d'une certaine manière, Jésus est sur le trône de David, et pourtant il n'y est pas encore. On n'est pas encore dans le millénium, mais le millénium va assurément arriver. Et c'est pour ça qu'en Romains 8:37, quand Paul parle de toutes les promesses, le fait qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qui les a justifiés, les a aussi glorifiés. Il va dire en Romains 8:37, « Mais dans toutes ces choses, donc d'en haut, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Vous voyez, c'est ça la victoire en fait. On est vainqueurs parce que c'est en Christ que nous avons cette assurance. Et en Galates 1.4, il est dit que Christ s'est donné lui-même pour nous, pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Et donc, on est dans un siècle mauvais, il l'était déjà à l'époque quand ça a été écrit par Paul, au premier siècle après Jésus-Christ, mais nous sommes encore dans un siècle mauvais, c'est peut-être pire encore, j'en sais rien, mais on a été arrachés, et ça c'est une assurance que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et en 1 Jean 4.4, l'apôtre dit « Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus ». Vous voyez, c'est pas parce qu'on est super, non, c'est parce que nous sommes de Dieu que nous avons obtenu la victoire. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 5,4 « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire que c'est pas notre puissance, c'est pas notre intelligence, notre sagesse, ce ne sont pas non plus les circonstances favorables qui sont synonymes de victoire. Notre victoire, c'est notre foi. On a cru à Dieu pour le salut, mais nous croyons Dieu pour le présent et nous croyons Dieu pour le futur. Et nous voyons le futur et le présent comme le passé, quelque chose qui est accompli en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.